un pas de côté.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme, un pas de côté. Un magazine que nous réalisons chaque mois en partenariat avec les offices de tourisme Vercors-Drôme et leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royans, La Chapelle en Vercors et à Saint-Nazaire-en-Royans. Et nous sommes comme chaque mois en compagnie de Maëva Vol qui est chargée de communication à l'office de tourisme. Bonjour Maëva.
Bonjour Anouchka.
Pour ce numéro 48, donc cette édition de novembre 2024, nous sommes heureuses de vous retrouver pour une édition qui est au cœur de l'automne avec les températures qui baissent et qui nous donne envie de manger plutôt gourmand, Maëva, n'est-ce pas?
C'est ça, avec l'automne qui bat son plein dans le Royaume Vercors, une explosion de saveurs s'empare de nos tables. C'est une saison qui réchauffe les cœurs, où les marchés regorgent de produits locaux et où on prépare doucement pour l'hiver. Si vous êtes du côté de Saint-Jean ou de la Chapelle en Vercors, ne manquez pas les marchés du jeudi matin. C'est le moment idéal pour remplir votre panier de produits de saison, noix, fromage, légumes d'automne et toutes les autres douceurs qui sentent bon le terroir. Et en cette année, on célèbre le grand retour du plat incontournable de la région, la vercouline. Vous connaissez la vercouline ?
Je connais bien la vercouline, tout à fait.
Bon, il va falloir goûter un peu à ce plat typique du Vercors, c'est la raclette version Vercors, avec du bleu du Vercors, ce fromage local qui va venir vraiment donner cette petite saveur de la montagne de chez nous. C'est une raclette un peu plus audacieuse, au savoir prononcé, parfaite pour se réchauffer en famille ou entre amis, quand les températures commencent à chuter. Donc l'automne dans le Royaume Vercors, c'est ça, des produits qui racontent l'histoire d'un terroir et des moments gourmands à partager.
Des moments donc à ne pas manquer, ce sera l'occasion de le faire sur les hauteurs de Saint-Jean-en-Royans et plus précisément au col de la Machine à l'hostel Quartier Libre. Olivier qui est membre fondateur de la SCOP de l'hostel Quartier Libre et Rebecca qui est salariée sont venus détailler au micro de Charlène le programme des week-ends de l'hiver avec notamment une nouveauté gourmande, des brunchs tous les premiers dimanches du mois. On écoute.
Un pas de côté.
Pour l'offre de restauration, ce qui est proposé à Quartier Libre, c'est que des produits bio, maximum local. Puis après, ce qui est proposé, il y a toujours un plat végétarien. Donc ça, c'est aussi un parti pris de Quartier Libre. On a le fameux gratin de ravioles qui est arrivé à la carte en début d'été et qui restera sans doute là encore longtemps, qui est fait avec du fromage justement de Gaec de Rocherousse à Saint-Martin-en-Vercors. Globalement, ça fait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, plus des boules de glace de chez Lilian à la Chapelle ou au lait du Vercors. Voilà à peu près. Et ça, on essaie de changer toutes les semaines, toutes les 2 semaines quand on est en intersaison. Après l'été, c'est peut-être plus compliqué de changer toutes les semaines. Et ça aussi, c'est pour faire venir un peu de la clientèle locale pour que justement la carte ait des petites nouveautés chaque semaine.
Pour avoir eu la chance d'y manger quelques fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même une originalité dans la cuisine. Je me demandais quelle est la liberté que vous donnez justement aux chefs dans la cuisine pour proposer des nouvelles formes de cuisine, parce qu'il y a souvent des saveurs ou des textures assez incroyables, inédites.
Alors, il n'y a pas de chef en cuisine.
Ah, ça, c'est bon à savoir.
Voilà, c'est d'autres formes de ouais. Fonctionnement, justement, dans la SCOP. En fait, il y a une équipe cuisine avec des personnes qui ont des responsabilités différentes. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de bonne humeur. On n'a pas un fonctionnement comme dans un restaurant classique. Et c'est pour ça aussi qu'on a du monde qui souhaite travailler à Quartier Libre. C'est aussi pour avoir un milieu qui est différent du milieu de la restauration classique. Et il y a une assez grande liberté. En fait, nous, il y a le cadre de valeur. Voilà, le bio, le local, des produits bruts, des produits de saison. Il y a la carte qui change toutes les semaines. Il y a ce qu'on est capable de faire avec l'équipement qu'on a dans la cuisine. Et puis, il y a ce qui est humainement possible de faire en un certain nombre d'heures. Et pour que justement, tout le monde aime son métier, vive son métier dans la bonne humeur. Donc, quand vous avez mis tout ce cadre-là, eh ben, il reste quand même beaucoup de possibilités à l'intérieur pour s'amuser, pour prendre du plaisir en tant que cuisinier ou cuisinière. Et notamment avec le catalogue de Agricourt, donc, qui est une structure qui regroupe des producteurs locaux et régionaux et qui nous livre au col de la Machine, hein, qui est un enjeu quand même majeur ouais. Pour nous. Grâce à ce catalogue, on a une grande richesse pour combler toutes les envies de l'équipe cuisine. Donc oui, on est dans une recherche de cuisine assez sympa, assez originale, savoureuse, copieuse. Et c'est au gré des envies de l'équipe cuisine.
Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelques nouveautés qui arrivent pour cet automne-hiver côté cuisine. J'ai notamment entendu parler des brunchs. Je crois qu'il y a eu un premier brunch le week-end dernier. Un petit retour, du coup.
C'était pas notre premier brunch qu'on propose à Quartier Libre, mais c'était notre premier brunch de la saison. Ça s'est bien passé. Un peu de stress un peu au début, mais ça s'est très bien passé. On est content. Il y a eu du monde. Il y avait aussi le trail des maquis du Vercors en même temps. Il y avait la cuvette aux champignons. Et puis, bon, il y a eu entre deux nuages, il y a fait beau. Donc, on était très satisfaits. Comme l'a dit Rebecca tout à l'heure, en fait, nous, l'enjeu, c'est le 4 saisons, c'est de vivre à l'année et c'est de faire en sorte que le modèle économique de Quartier Libre soit pérenne dans le temps. Et donc, tout l'enjeu est le 4 saisons. C'est pour ça que aujourd'hui, vous avez un grand nombre de scopes qui fleurissent dans la restauration, justement pour avoir d'autres modes de travail. Mais vous avez encore très peu de scopes dans l'hébergement en restauration. Parce que le modèle, on va dire classique, c'est un modèle saisonnier. C'est-à-dire, vous ouvrez 6 mois de l'année pendant la période haute, vous embauchez des saisonniers, et puis après, vous fermez. Nous, c'est pas du tout notre envie. Nous, ce qu'on avait de base dans nos accords de groupe avec Karen, c'était justement d'être ancré localement et d'ouvrir un lieu vivant sur le territoire toute l'année. Donc, l'enjeu, c'est comment on subvienne à nos charges, entre guillemets, toute l'année. Ben justement, en octobre, en novembre, en janvier, au mois de février.
C'est là où il faut être force de proposition et innover
Exactement.
Un peu pour les habitants, habitantes du coin, quoi.
Et c'est là où, en fait, on a envie d'être un lieu convivial et on a envie que les habitants du Royan et les habitants du plateau se réapproprient le col de la machine, Combe-Laval, et reviennent découvrir ces paysages magnifiques 4 saisons. Même avec le brouillard, avec la neige, avec le beau temps. Et du coup, on a essayer de développer un imaginaire, celui du dimanche au col de la machine. Nous, on a envie, entre guillemets, que les habitants sortent de chez eux, viennent découvrir le col de la machine 4 saisons, fassent une balade en forêt et justement fassent une pause gourmande à l'hostel Quartier Libre. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des brunchs tous les premiers dimanches du mois, ainsi que des goûters gourmands, donc ça tous les week-ends, samedi, dimanche. Voilà, donc des desserts et puis des gaufres maison, donc de octobre jusqu'à avril.
Ok, et donc sur les formules du brunch, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu retrouver si on était venu le week-end dernier?
Bah, typiquement le Gravlax de truite de la Vernaison, qui était fameux. On est sur une formule à 28 euros par personne et 20 euros pour les enfants de moins de 10 ans. En fait, c'est un buffet à volonté avec thé et café inclus. Il y a une boisson spéciale aussi qui est incluse dans la formule. Là, ce dimanche, on retrouvait, il y avait des pancakes maison, il y avait le fameux Gravlax, des petites crudités, des saucisses grillées, du houmous, du velouté de butternut, du pain de Beauvoir, les confitures maison, salade de fruits.
Tout un tas de choses pour passer un bon dimanche au col de la machine.
Oui, il ne faut pas trop en dire, mais il y a du sucré, du salé, il y a du carné, du végétarien, il y en a pour tous les goûts. Et à chaque fois, c'est un buffet un peu surprise qu'on fera en fonction de la saison et des produits qu'on a cette semaine-là. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Rebecca. On a pris la dénomination hostel, qui signifie qu'on a à la fois des dortoirs, donc de petites capacités qui peuvent être soit louées de manière exclusive, donc des personnes qui se connaissent, soit tout seul, un voyageur en itinérance sur le GR9 qui traverse le col de la machine. Et tous les dortoirs ont leur propre sanitaire, donc douche et toilette. C'est à partir de 25 euros le lit. Et pour la petite histoire, mais on n'a pas le temps d'en parler ici, mais on a construit nos propres lits superposés qui sont des couchettes tôt confort avec éclairage, effet ciel étoilé, petite prise, petite tablette, petit rideau. C'est un projet dans le projet, on en parle pas beaucoup. Et puis après, vous avez des chambres doubles, classiques comme un hôtel, ou des chambres twin. On a également des chambres familiales, donc qui sont une chambre double avec une salle de bain qui communique avec une petite chambre avec un lit superposé, qui sont très prisés l'été par les familles. Et puis on a un studio meublé, un appartement tout confort en autonomie. Et donc tout ça, ça regroupe la dénomination hostel, donc plusieurs typologies d'hébergement. Et puis à l'avenir, il y aura un petit projet de camping, et un petit camping naturel, vu sur Combe-Laval. Et en attendant, l'été, on accueille le bivouac avec grand plaisir. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde toute l'année. Et voilà, on est comme un mini-centre de vacances convivial perché en haut de la montagne. Et puis, à côté de ça, il y a le bar-restaurant. On fait aussi de l'accueil de séminaires d'entreprise. On a une salle d'activité slash salle de réunion. Donc ça, on en accueille toute l'année. Et quand je dis séminaire entreprise, ça peut être aussi des stages, yoga et des regroupements associatifs. On fait aussi pas mal de regroupements familiaux. On a fait quelques mariages, des anniversaires, des départs à la retraite.
Et peut-être on peut conclure en rappelant vos prochains temps forts, peut-être des projets à venir si vous en avez, ou vos horaires d'ouverture.
Alors je dirais que justement restez connectés, parce que d'ici un an on va avoir des choses à annoncer justement sur des événements qu'on espère et on espère vous croiser en fait au col de la machine. Pour faire un petit rappel de nos horaires d'ouverture, donc c'est assez complexe, accrochez-vous. Alors là, en intersaison, nous sommes ouverts du vendredi soir au dimanche, et après nous sommes ouverts 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires de notre zone, donc la zone A. Et après, pour faire très très simple, de fin avril à fin septembre, on est ouvert 7 jours sur 7 en continu tous les jours.
Ça va, c'est pas si compliqué.
C'était clair.
Et sinon, on peut de toute façon retrouver toutes ces informations sur votre site internet et vos réseaux sociaux.
Bien sûr.
Ouais, et sur le site internet, on met aussi le menu à jour. Là, en l'occurrence, c'est tous les vendredis qu'on le met à jour. Et sinon, quand on est en 7-7, on le met à jour tous les jours.
On n'en parle pas assez souvent, mais au-delà des événements qu'on organise, on propose aussi des courses d'orientation. C'est des courses d'orientation sur le thème de la résistance, et puis il va en avoir des nouvelles autour de la faune sauvage du Vercors. C'est des balises à trouver avec un jeu de piste que vous pouvez retrouver dans tout le parc. Vous traversez la forêt, les prairies, une grotte, c'est assez sympa. Et puis vous finissez ce jeu de piste avec nos carabines de biathlon laser. Donc il y a une activité assez sympa, et c'est à réaliser toute l'année, peu importe la météo. Et pour tout âge.
Ouais, donc c'est une activité qu'on peut faire en famille. Et comment on fait ? On vient à l'accueil, on vous en parle et...
Ouais, pas besoin de réservation, juste de venir.
Eh ben, ça annonce des beaux dimanches et des beaux week-ends au col de la machine, donc à Saint-Jean, en Royon. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de venir nous parler de Quartier
Libre.
Un pas de côté.
Merci donc à Olivier, membre fondateur de la SCOP de l'hostel Quartier Libre à Saint-Jean-en-Royans, et à Rebecca, qui est salariée donc de l'hostel et qui répondait tous les deux aux questions de Charlène.
Et pour profiter de ces brunchs, pensez à réserver au 04 75 48 26 36 ou sur le site hostelquartierlibre.fr.
Et n'hésitez pas également à consulter le site internet de l'hostel Quartier Libre ou encore leurs réseaux sociaux pour vérifier donc les horaires d'ouverture avant de vous rendre sur place. Et pour notre deuxième sujet de reportage, on s'intéresse maintenant à Pauline Dalmé, autrice et illustratrice du roman graphique « Il ne reste que le mauve » qui vient de paraître aux éditions Pantera. Il s'agit d'une histoire au cœur du Vercors où l'on suit page après page le personnage de Rose et où se dessine une ode aux grands espaces, aux transformations et à l'émancipation. Charlène l'a rencontrée pour échanger notamment sur les trésors de notre territoire. On écoute.
Un pas de côté.
Donc pour commencer, moi je voulais te demander de nous résumer, ou en tout cas de nous parler de cette histoire donc, qui se passe dans Il ne reste que le mauve.
Alors il s'agit de Rose qui a essayé de suivre les consignes que la société lui a demandé de suivre. Et en fait elle se rend compte que la case qu'on lui a assignée lui convient pas tout à fait. Donc elle se sent de plus en plus envahie par des choses... qui ne la concerne pas, et donc elle ne voit pas d'autre possibilité que de s'évader. Elle sort de sa case, elle s'évade, et elle ne sait pas où elle veut atterrir. Au bout d'un parcours d'équilibriste, elle se rend compte qu'elle a atterri sur un territoire qui lui donne envie de s'arrêter, et ce territoire, c'est le Vercors. Elle va du coup quelque part commencer une transformation avec son rapport à la nature, avec le vivant, et elle va aller passer beaucoup de temps en forêt, dans les magnifiques forêts du Vercors, pour se sentir apaisée et en lieu sûr. Et donc c'est dans ce lieu sûr qu'elle va du coup retracer le fil de ses pensées, faire un peu le point sur tout ce qui lui est arrivé, comment elle est arrivée là, pourquoi elle a accepté des choses qu'elle ne voulait pas accepter, et où est-ce qu'elle a envie d'aller maintenant.
Et ça, on le ressent bien justement dans les différentes planches qu'on peut découvrir donc dans ton roman graphique, où on sent que Rose, donc ce personnage qu'on va suivre dans sa découverte, dans son exploration et ses différentes prises de conscience, elle fait partie de ces forêts que tu représentes, et on va pouvoir s'attarder aussi sur les illustrations qui sont vraiment sublime. On sent qu'il y a du toucher, il y a un très beau jeu aussi sur les couleurs, les lumières. Il y a une unité qui se crée entre elle et le paysage. Moi, j'avais aussi envie de te demander comment est-ce que tu en es arrivé à faire ces peintures, à représenter voilà, la forêt. Donc, ça se passe en automne. On est dans ces belles forêts avec des couleurs flamboyantes et des lumières chaudes, rasantes. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ces représentations?
Mon rapport à la peinture, la peinture a toujours fait partie de ma vie. Et je crois que ça a toujours été également une recherche de sensitivité. Voilà, donc c'est ce que tu dis. Il y a toujours quelque chose, je suis très très concentrée pour arriver à représenter quelque chose qui pourrait, oui, se toucher. Je crois qu'on arrive à sentir les odeurs dans mes peintures, de la mousse. Il y a quelque chose de très sensitif. Je vais faire un travail in situ, toujours sans crayon, sans gomme. Je dépose des couleurs sur un papier. Et donc le travail de la gouache et de ce livre, c'est un peu différent parce que j'étais en atelier, mais j'avais peint toutes ces forêts à l'aquarelle, sur place, et j'avais quelque part pris les énergies du lieu, les couleurs, et vraiment je passais aussi beaucoup de temps à faire des nuanciers, trouver le bon nuancier, et ça c'est, voilà, c'est un travail très précis pour moi. Et donc sur les nuanciers, dans ce livre, il y a vraiment, j'ai choisi 5 nuanciers et qui sont tous reliés les uns aux autres, mais qui vont faire qu'il y a cette sensation d'évolution et de temps qui passe. Et les forêts, alors moi, c'est vraiment un lieu, en effet, qui me remplit de joie. Et je crois que la joie, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie aussi qu'on sente dans ce livre, même s'il traite de choses qui sont des fois difficiles, mais qui sont... Il y a quand même énormément de joie. Et moi, voilà, en forêt, je suis, même quand il y a de la brume, quand il pleut, je trouve que c'est extraordinaire comme lieu. Et donc, j'avais envie que ce personnage puisse arriver à exprimer ce lieu sûr en forêt. Et donc, ce livre-là, sur le démarrage de l'histoire, en effet, il fait écho à une randonnée que j'ai faite seule. Mine de rien, pour moi, une femme seule dans la forêt, on ne m'avait pas forcément appris à le faire. Alors, les gens qui sont nés là, les grands sportifs, eux, ils ont pas de problème à le faire. Moi, c'était pas mon cas. Et donc, j'ai quand même, quand je me suis installée dans le Vercors, petit à petit, apprivoisé doucement chaque petit lieu. J'allais toujours un peu plus loin, mais pas trop parce que j'avais peur. Et puis, un jour, je suis partie marcher en fin de journée à l'automne et c'était absolument flamboyant et fabuleux. Et en fait, sans m'en rendre compte, quand je suis arrivée au niveau de la cabane de Roibon, sous les arêtes du Gerbier, je me suis retournée et il y avait une mer de nuages qui m'avait suivie et dont je m'étais pas rendu compte. Voilà. Et là, j'ai vécu un moment vraiment suspendu, un instant de grâce comme un artiste rêve de ressentir, puisqu'en fait, cet instant-là, il a nourri et il continue de nourrir ma pratique artistique. Donc, c'était il y a 2 ans environ. Et depuis, je suis nourrie par cet instant-là. Voilà. Et après, j'ai aussi, je ne sais pas si tu connais l'atelier du Presse Citron. C'est en fait 4 jeunes femmes de Lens-en-Vercors qui ont récupéré un local juste derrière l'église où elles ont fait une partie coworking avec l'association Utopique, qui est l'association qui gère tous les coworkings sur le plateau. Et elles ont fait un atelier artistique partagé. Et à l'avant de ça, il y a une boutique où on vend, puisque je fais partie de l'équipe, nos illustrations, des reproductions d'illustrations. On est 10 illustrateurices à faire partie de cette aventure-là. Il y a même une potière, on a un photographe, on a des graveuses, donc elles font de la gravure, elles font de la linogravure, de la sérigraphie, il y a de l'aquarelle. Voilà, donc on est tous vivants sur le plateau, et donc c'est vraiment un lieu qui est fabuleux, donc il faut vraiment aller voir. On a des horaires d'ouverture les samedis matins, samedi fin de journée, dimanche fin de journée, et pendant les vacances scolaires, beaucoup plus. Donc vous pouvez aller sur le site et voir les horaires, c'est vraiment une boutique super chouette.
Et donc ton roman graphique, on rappelle son titre, Il ne reste que le mauve. Moi, je me posais la question de son titre. Bien évidemment, on va pas spoiler le contenu de ton roman et la fin notamment. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ce titre, Il ne reste que le mauve?
Alors, c'est un titre qui est arrivé juste avant qu'on finisse ce livre, puisqu'il avait eu 2 autres titres. Moi, je l'avais appelé La Grâce pour commencer, et puis après, on l'a appelé Vivante. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des titres qui étaient déjà très utilisés. Et puis, voilà, finalement, ça nous allait pas. Et donc, on a réfléchi et c'est un soir, avec mon mari, on a trouvé... donc, c'est une phrase qui fait partie de mon texte. Mais au-delà de ça, vous verrez, c'est l'idée d'aller à l'essentiel de la simplicité, que je parlais sur le fait de se vider et d'aller vers quelque chose le plus épuré possible et le plus simple possible. Et du coup, le plus pur et beau.
Et donc, le mauve, il va falloir lire et découvrir donc ce roman graphique pour en savoir plus.
Un pas de côté.
C'était Pauline Dalmé avec Il ne reste que le mauve. Vous pouvez retrouver son ouvrage notamment au Café des Espelines à Vassieux. C'est l'occasion idéale de boire un café au coin du feu par la même occasion.
Un lieu à découvrir donc à Vassieux en Vercors. Et pour terminer cette édition automnale du Pas de Côté, nous vous proposons maintenant un panorama de l'exposition phare de cette année 2024 au Centre d'art L'Arsolite à Saint-Jean-en-Royans, One to Street Art. Car One to Street Art, ça continue. Initialement prévu jusqu'au 3 novembre, l'exposition est prolongée jusqu'à la fin du mois de décembre pour accueillir les retardataires qui n'ont pas encore eu le temps d'en profiter. Décryptage de cette exposition par Jean-Patrick Bouvard, co-directeur de L'Arsolite, au micro de Patrice.
Un pas de côté.
Bonjour Jean-Patrick Bouvard.
Bonjour.
Et merci pour l'accueil à l'Arsolite, hein, lieu d'art dans la commune de Saint-Jean-en-Royans, qui actuellement est en pleine effervescence à travers cette nouvelle exposition printanière. Nous allons nous centrer aujourd'hui sur la grande exposition qui a investi la salle principale dans le bâtiment de l'Arsolite. Découvrir des aspects culturels, pas forcément institutionnalisés, c'est ce qui rend compte aussi d'une exposition très diversifiée à travers eh bien, la manière de s'emparer des bâtiments, une culture qui remonte depuis bien longtemps. On va voir cela en votre compagnie, ce qui retrace cette exposition One to Street Art, qui est dédiée aussi un petit peu dans la veine de l'Arsolite, à sa fibre autour du graphe. C'est ce qui a aussi donné un peu naissance à une certaine essence, pourrait dire, culturelle maison. Voilà, donc une exposition avec de nombreuses collaborations qui l'ont construite.
Oui, tout à fait. Il se trouve que pour cette exposition, nous avons pris à tâche, enfin on a été chercher la collaboration avec le Musée en Herbe de Paris, et notamment Sylvie Girardet, sa directrice, et qui est la co-autrice de l'expo, avec Judith Moreau, qui, elle, a créé une association qui s'appelle Little Beaux-Arts sur Lyon. Et toutes les deux sont les curatrices, les commissaires de l'exposition et les directrices artistiques. Donc une exposition qui retrace l'avènement du street art, de l'art urbain, des origines américaines, fin des années 60, années 70, jusqu'à nos jours. Une exposition qui est basée autour de l'art immersif, une immersion scénographique muséale, bien sûr, c'est pas des théâtres ou des décors de cinéma, mais quand même suffisamment expressif pour donner des ambiances, les ambiances de la rue new-yorkaise, les ressemblances du métro new-yorkais, du métro parisien et plein d'autres, pour retracer un peu les espaces dans lesquels les street artistes évoluent, œuvrent, créent, et puis pour aller jusqu'au musée où là, ils commencent à, effectivement depuis quelques années, à percer clairement. Leur art est repris par des galeristes et acheté par des musées, par des centres d'art et ainsi de suite.
Alors, la salle d'exposition, on le rappelle, est assez gigantesque, plus de 500 mètres carrés dédiés à poser des œuvres, ce qui a permis peut-être aussi à l'Arsolite de donner des cadres vraiment immersifs à chaque proposition, peut-être des tranches, des époques différentes autour du street art. On commence à partir dans la première salle du métro.
Oui, tout à fait. Alors, toute première salle, même avant de composter son billet, on est dans la rue new-yorkaise. Et puis tout de suite, quand on a composté son billet, comme si on compostait dans un métro, on tombe dans le métro new-yorkais, avec notamment un Kessaring. Donc, c'est plutôt sympathique de voir ça en vrai. Et puis après, on passe au métro parisien. Et c'est comme ça qu'on passe du côté très New York, Amérique, artiste américain, aux artistes européens, notamment français, mais pas que, espagnol, portugais. portugais, anglais, vraiment c'est très large et vous allez pouvoir voir plein de médiums différents, puisqu'on va avoir de la photographie, on va avoir de la peinture, on va avoir des représentations de ce qu'ils font dans l'espace urbain, on va avoir des affiches, on va avoir vraiment plein de techniques, et notamment, en parlant de techniques, on les retrouve dans un espace qu'on appelle la boutique, qui est là justement pour énoncer les techniques utilisées par les street artistes, les artistes urbains. C'est une fausse vraie boutique de graphes où vous pouvez faire semblant d'acheter une bombe ou des bombes, des caps qui se collent sur les bombes pour diffuser la peinture, des Posca ou autres loupes ou Molotov pour des marqueurs à l'encre acrylique. Enfin, voilà, ça donne cette ambiance-là et ça décrit les techniques utilisées par les street artistes.
Un pas de côté.
Et vous avez donc maintenant toutes les informations sur cette exposition One to Street Art à découvrir à l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royans jusqu'à la fin du mois de décembre.
Pour pouvoir profiter de cette exposition, vous pouvez y aller du mercredi au dimanche de 14h à 18h et également le matin de 10h à 12h30 sur les week-ends. Vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur le site de l'Arsolite à Saint-Jean.
Et on termine ainsi cette édition d'Un Pas de Côté, le magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme. Vous pouvez réécouter notre émission sur le site internet de Radio Royan Vercors, radioroyan.fr. Et rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages. Merci à vous Maëva.
Merci Anouchka.
Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.
Un pas de côté.